Bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette émission spéciale et d'une certaine façon exceptionnelle, puisque jeudi dernier, 23 juin, le nouvel ambassadeur de Cuba en France a consacré une journée entière à la ville de Marseille et à des rencontres entre toute une série d'institutions encore constituées dont il nous parlera. L'événement était donc suffisamment rare pour que nous lui demandions de le rencontrer pour qu'il nous fasse le bilan de cette rencontre et pour faire un tour d'horizon général sur la situation de Cuba. C'était d'autant plus important pour nous qu'il y a à Marseille une communauté cubaine, petite en nombre mais qui existe et qui est vivante, et qu'il existe sur place toute une série d'amis de Cuba, organisés ou moins bien organisés, peu importe, qui s'intéressent de très près à l'avenir de cette île et à l'avenir de ce pays courageux. Voilà, donc j'ai rencontré monsieur l'ambassadeur le lendemain de sa visite à Marseille, donc c'était vendredi, et nous avons fait donc ce qui était prévu, donc un bilan de sa visite et puis un tour d'horizon sur l'actualité cubaine. Et vous allez donc entendre donc monsieur Otto Valiant Frias, nouvel ambassadeur de Cuba en France, qui honore Marseille de sa visite. On l'écoute. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec un très très grand plaisir monsieur l'ambassadeur de Cuba en France. Depuis quelques mois, vous êtes en poste, je crois. J'avais déjà eu l'occasion d'interviewer, mais par téléphone, votre prédécesseur sur une émission qu'on avait consacrée au blocus, ou plutôt à la levée du blocus, qui est toujours, hélas, un sujet d'actualité. Et donc, c'est monsieur donc, Otto Valiant Frias. J'ai noté Frias, c'était pas un de nom que Hugo Chavez portait aussi.
Oui, c'est le même nom.
Je me suis dit, alors c'est pas la même famille, mais c'est le même nom.
On sait jamais.
On sait jamais. Voilà. Donc, très très heureux de vous accueillir parce que vous êtes à Marseille et que vous êtes venu dans le cadre de votre mission diplomatique dans une réunion qui était organisée, si j'ai bien compris, par la Chambre de commerce de Marseille. Ou est-ce que ça a été plus large que cette réunion-là ?
C'est plus large que ça. Normalement, je rends une visite à Marseille. Et tout d'abord, je remercie infiniment les Marseillais et les autorités et les amis qui m'ont accueilli à Marseille. Je viens pour avoir des réunions avec la Chambre de commerce,
oui,
et les autorités de la ville.
D'accord.
Pour amener la coopération entre Marseille et La Havane, aussi que avoir pour améliorer les liens entre les citoyens de Marseille et les citoyens cubains.
Bien sûr. Alors, je crois que ces liens sont bons, mais ils ne passent pas par le niveau des autorités. C'est-à-dire qu'il existe, il y a un certain nombre de Cubains à Marseille, il y a plusieurs associations, mais aujourd'hui on a manqué, puisque l'association France-Cuba, vous le savez peut-être, tient son congrès à Toulouse, son congrès annuel. Donc les militants de France-Cuba ne sont pas à Marseille aujourd'hui. Ils auraient bien aimé de vous rencontrer.
Mais je vais les voir demain.
Vous les verrez. Bon, ça va.
Parce que je vais les rencontrer demain à Toulouse.
Très bien. Bon, c'est là, vous les verrez. Et puis, je voulais vous dire qu'il y a donc un courant, un groupe de gens qui s'occupent de faire des envois de médicaments, de matériel pour la santé à Cuba, et qui ont un gros appui. Alors ça, vous le savez, je ne le dirai pas pour la radio, mais ils ont un appui d'un certain nombre de militants syndicaux qui les aident à préparer les colis, à préparer les containers et tout. Donc ça, cette activité-là est constante et elle est très, 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 très importante.
Vous savez, pour Cuba, c'est très important la solidarité.
Bien sûr.
Du peuple de Marseille.
Oui.
Vous savez, au moment de la Covid, le gouvernement des États-Unis nous avait empêché d'acheter les seringues.
Oui, oui.
Parce que, et là, grâce à la solidarité du monde, on a reçu des millions de seringues pour vacciner les Cubains avec les vaccins.
Avec vos vaccins.
Oui.
Avec vos vaccins.
Avec les vaccins que Cuba a produits.
Voilà, c'était ça.
C'est une merveille de la science cubaine. C'est une véritable réussite de notre science.
Tout à fait.
Avoir eu 5 candidats vaccinaux. Et parmi eux, 3 déjà sont vaccins. Mm-hmm. Et il y a un quatrième, mm-hmm, qui a un rappel nasal, Mambisa.
Mambisa, oui, j'ai vu.
Que ça marche très bien.
Ça va, voilà.
Ça marche très bien. Et pour le reste, vous avez eu le nouvel, et Cuba a vacciné presque toute la population.
Toute la population.
Y inclut les enfants.
Voilà.
Et ça, c'est la grande différence, parce que quand la vague Omicron s'est déployé dans le monde entier. Mm-hmm. À Cuba, on était prêt pour recevoir la vague Omicron de COVID. Et une fois que la vague arrivait, c'était une véritable surprise pour nous tous.
Oui.
Parce que le Omicron était 10 fois plus faible à Cuba qu'ailleurs. Même en France, aux États-Unis, en Israël, au Canada.
Oui, oui.
Et les scientifiques se demandaient pourquoi.
Pourquoi, oui.
Quelle est la raison de que Omicron soit 10 fois plus faible à Cuba que dans le reste du monde. Et les scientifiques ont arrivé à la conclusion que ça se passe seulement, ils croient, c'est parce que tous les enfants étaient aussi vaccinés.
Donc il n'y a pas eu d'infecteur.
Et comme les enfants étaient vaccinés, la plupart d'entre eux ne portaient pas la maladie, ils sortaient très bien. Et voilà, et on est arrivé à couper la transmission.
Donc là, c'est remarquable et c'est d'autant plus douloureux de vous empêcher de vacciner avec l'histoire des
soirées. Ça fait plus de 40 jours qu'il n'y a pas de mort à cause de Covid à Cuba.
J'ai vu ça, oui.
Et hier, on a eu 20 cas seulement. Voilà. C'est rien.
Et j'ai vu que vous essayez de tendre la main à votre voisin malheureux, j'appelle ça le voisin malheureux, qui est Haïti, le pauvre voisin martyrisé par les Français, les États-Unis, etc. Et que vous n'arrivez pas à mettre, vous avez un projet de vacciner et d'aider les Haïtiens.
Oui, il y a des médecins cubains en Haïti.
Comme dans beaucoup d'endroits.
Oui, beaucoup d'endroits. On a des milliers de médecins qui travaillent à l'extérieur. Même les États-Unis, avec les 243 mesures que l'administration Trump a pris contre Cuba, une des plus mesures les plus criminelles, c'est démoniser les brigades cubaines qui travaillent à l'extérieur. Parce qu'ils ont dit au gouvernement que le médecin cubain, il parlait contre le médecin cubain, il mettait la pression pour que ce gouvernement finisse la coopération avec Cuba et coupe la présence des médecins cubains dans ces pays. Et ce qui se passe, c'est que le médecin cubain était dans les endroits où personne ne veut y aller.
Et oui. Et oui.
Mais finalement, les brigades de médecins cubains sont partis de plusieurs pays, ont quitté ces pays, et les gens de ces communautés restent sans protection, jusqu'à toujours.
Jusque-là.
Parce que dans les endroits où étaient les médecins cubains, il n'y a pas d'autres médecins qui veulent y aller.
C'est le cas au Brésil, c'est ça?
Ah oui.
C'est la brutalité de... Bon, c'est mon opinion du gouvernement Bolsonaro. Je préfère laisser mourir plutôt que de faire un geste humanitaire.
C'est incroyable ce qu'ils ont fait les Américains avec nous. Et à Cuba, les gens sont gentils, cultivés. Et les peuples cubains ne méritent pas.
Non, les souffrances qu'on lui
a
imposées.
Oui, les souffrances imposées par le gouvernement américain et qui restent toujours là depuis 60 ans. Le gouvernement américain a annoncé 3 mesures d'affaiblissement du blocus. C'est permettre que les avions à partir des États-Unis puissent arriver à n'importe quel aéroport international. Vous savez, que vous connaissez que Cuba, même si on a une petite île, on a plusieurs aéroports internationaux, 11. On a 11 aéroports internationaux qui nous permet de recevoir visiteurs dans n'importe quelle partie de l'île. Et voilà, ils ont empêché Trump que les gens viennent directement à Holguín ou à Santiago de Cuba ou à Bayamo avec les avions directement des États-Unis, mais non, c'est permis. C'est la seule mesure qui a été mise en place parce que les autres mesures passent encore. La deuxième, on ne sait pas comment ils vont arriver à faire ça parce qu'ils ont fermé les bureaux de Western Union à Laval et ils ont démonisé l'entreprise cubaine qui s'occupait de ça, Fincimex. Ils l'ont mis sur une liste noire, voilà. Et maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont arriver à solutionner les problèmes, à régler les problèmes que la famille cubaine qui habite aux États-Unis puisse envoyer de l'argent à leur famille.
C'est toujours le...
Et maintenant, et la deuxième mesure, c'est prise par Biden, ne passe encore
en application,
mais c'est de permettre l'envoi des fonds de remise familiale sans limite, parce qu'il y avait une limite de $300 par mois.
C'est rien.
C'est rien. Et alors, il y a plusieurs familles qui n'ont pas la possibilité d'avoir cet argent. Puis il y a d'autres que oui. Il y a plusieurs familles qui envoyaient seulement $100 parce ce qu'ils pouvaient envoyer.
Je pense qu'ils peuvent, bien sûr.
Il y avait qui envoyaient 50. Mm-hmm. Mais ça dépend de l'économie de chaque famille.
De chaque famille, bien sûr. Chacun fait tout ce qu'il
veut. Mais il y avait aussi des gens qui envoyaient de l'argent à leur famille pour l'ouverture de petites et moyennes entreprises privées, pour l'ouverture des restaurants, des bars et d'autres entreprises que les gens commencent à...
Puisque ça fait partie, effectivement, de l'ouverture politique du nouveau gouvernement.
Dans la dernière constitution, on a approuvé la réouverture des petites et moyennes entreprises.
Voilà.
Qui se sont fermés en 1968. C'était un petit moment. Hein.
Oui. Oui, donc il faut tout reconstruire.
Il y a depuis décembre, de l'année dernière, où ça a commencé en novembre, se sont déjà installés 3500 petites et moyennes entreprises.
Ah, donc ça a eu un bon écho, très bon écho.
Ah oui. Et ça commence à démarrer très bien. Déjà, il y a des petites usines privées et tout.
Carrément dans l'industrie, même pas que dans les services.
Ah oui, ah non. Il y a de l'industrie.
Ah non, ça c'est très très bien.
Ah oui, et ça c'est important.
Et oui, bien sûr.
Et vous voyez, pour l'attraction du tour d'investisseurs étrangers,
bien sûr,
Cuba a créé le guichet unique. Parce qu'avant, il fallait tomber sur plusieurs bureaux. D'accord. Différents papiers, différents délais.
D'accord.
C'était compliqué. Et maintenant, tout est arrangé dans un seul guichet. Et ce guichet est celui qui donne la réponse.
D'accord. Ça facilite beaucoup les choses.
À celui qui demande d'informations pour investir ou qui vient directement pour faire l'investissement.
D'accord.
Mais depuis 60 ans, la société cubaine a beaucoup changé. Et on a un peuple qui a une bonne instruction.
Voilà.
Et on a un peuple qui majoritairement supporte notre système politique. Et Cuba continue à dédier 30% de son PIB à la santé et l'éducation. Que c'est énorme.
Que c'est même unique, probablement. Oui.
30% du budget, c'est beaucoup. Hein. Mais ça, c'est notre raison de vivre.
Et c'est votre, oui, c'est votre positionnement politique.
Ah oui, et ce qu'on dit que tout d'abord, il faut défendre la vie.
Voilà.
Il faut protéger la vie.
Voilà.
Et il faut instruire les gens.
Et oui.
Parce que pour être libre,
Il faut être
cultivé.
Bien sûr.
Ce sont les mots de José Martí.
Bien sûr. Et à propos de guerre, j'ai vu que votre ministre des Affaires étrangères était à Vienne cette semaine pour parler du traité d'interdiction des armes nucléaires.
Oui, parce que Cuba avait la présidence au Genève du comité qui s'occupe de ça. Et maintenant, Cuba est allé, mon ministre est allé à Vienne pour ratifier notre position. La position de Cuba est très claire. Il faut démilitariser le monde, il faut détruire les armes nucléaires. Ça, c'est la position cubaine.
Tout à fait.
Parce que ça peut. L'humanité peut vivre un véritable grand problème avec les armes que les pays ont.
Ouais.
Un jour, s'il y a une guerre entre deux pays qui ont de l'arme nucléaire, si un d'entre eux utilise l'arme, la population du monde est finie.
C'est fini, exactement. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, la conscience, aujourd'hui, tout cet argent qui va où il ne devrait pas aller, il doit aller dans l'éducation et dans la santé. C'est ça l'avenir, pas que des Cubains, c'est l'avenir de toute l'humanité qui est en jeu.
Mais normalement, si l'humanité redépensait, pas en armes, sinon en médicaments ou dans la recherche de nouveaux vaccins, l'humanité n'aurait pas vécu la pandémie de la COVID telle qu'elle est. Parce qu'il y a 10 ans, quand il y a eu quelque chose semblable, le Merck, il y a 10 ans, 12 ans, à ce moment-là, c'était contagieux, mais a disparu rapidement. C'était quelque chose de semblable au coronavirus, mais comme ça a fini rapidement, l'humanité ne s'est pas mise à l'urgence de créer un vaccin contre le coronavirus.
Tout à fait.
Et 12 ans après, voilà.
Mais les scientifiques cubains étaient prêts.
Oui, c'est vrai.
C'est ça aussi le résultat d'une politique d'éducation. C'est
que
au moment où le problème se pose, vous avez la réponse.
Oui, c'est ça.
Vous savez que la France a été très très lamentable de ce point de vue-là, puisque l'Union européenne nous a choisi les vaccins en fonction d'intérêts. Enfin, bon, n'en parlons pas. N'en parlons.
Oui, l'Union européenne a décidé de faire le choix.
C'était très bien. Puisqu'on en est à évoquer l'Europe, j'en suis à évoquer l'Europe, j'ai vu qu'il y avait une délégation cubaine aussi qui était à Bruxelles ces jours-ci pour essayer de relancer.
Parce ils sont passés par Paris.
Par Paris. Ça, vous les avez peut-être vus alors.
Oui, et ils l'ont rencontré ici, sur mon Facebook, il y a des photos.
D'accord.
De Homero.
D'accord.
Qui est le secrétaire de l'Assemblée nationale de Cuba et du Conseil d'État. Il a rencontré le chef de relations extérieures au Sénat.
Au Sénat.
Emmanuel Cambon.
Oui, oui.
Et après, il est parti pour Bruxelles.
Pour Bruxelles.
Pour avoir de contacts avec les autorités de l'Union européenne et aussi que de Belgique.
Parce que. En tant que Français, on souffre toujours de cette hypocrisie de l'Union européenne et des pays européens qui disent, qui condamnent le blocus à l'Assemblée générale des Nations Unies et qui ne font rien. Hein, donc double langage. Et vous pensez qu'il y a une évolution possible où vous y travaillez?
Une évolution possible en Europe, vous me dites?
Oui. Est-ce que cette Union européenne peut changer ou s'aligner, continuer à s'aligner comme elle fait partout sur les positions des États-Unis?
Non, l'Union européenne a le choix de faire d'autres choses.
Ben oui.
Mais c'est vrai que l'Union européenne a condamné les blocus.
Oui, oui.
Et il y a des lois contre le blocus. Mais c'est vrai que les liaisons des États-Unis avec les entreprises privées. En Europe, nous fait du mal.
Et oui. Oui, puisque je sais, alors je ne sais pas si ça a abouti, la CMA a un procès aux États-Unis, puisqu'elle dessert un port cubain. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je n'ai pas d'écho. Peut-être qu'ils vous en ont parlé hier, la CMA, non. Ils ne vous ont rien dit. Mais c'est une affaire qui se règle, enfin c'est une affaire entre juristes spécialisés. Mais c'est très, très difficile. Et ils ont des projets d'augmenter les services, la CMA, ben c'est des secrets d'affaires, non?
Non.
Non, pour l'instant, ils
sont... Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé avec eux de ce chiffre d'affaires ou des quantités de bâtons.
Voilà. Ce qu'on regrette, moi je vais vous parler en tant que militant, c'est qu'il ne soit pas possible d'avoir un conteneur pas cher pour envoyer des médicaments. Parce que vous savez qu'ils sont dans une situation fou. Financière extraordinairement brillante et que tout est très 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 cher, les prix ont augmenté de 4 ou 5 fois depuis le début de l'épidémie. Et donc on se dit, avec tout cet argent, ils pourraient faire un geste humanitaire. Mais je ne sais pas s'ils savent le faire. Mais ça, c'est mon opinion de journaliste.
Non, c'est l'opinion de plusieurs personnes. Ce qui se passe, c'est que il y a 300 ans, le monde se rendait compte qu'il n'y avait pas assez de conteneurs.
Voilà.
Et voilà, les conteneurs maintenant sont très chers.
Très chers, oui, très très chers.
Mais ce n'est pas seulement le cas en France.
Non, non, c'est génial aussi que c'est mondial.
Excusez-moi, c'est mondial.
Tout à fait, c'est mondial.
C'est mondial. Ça, c'est un véritable problème pour le pays du tiers-monde.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'imaginez-vous, si en France, le pays plus développé, il y a cette augmentation des prix, imaginez-vous, dans le pays du tiers-monde, comment est-ce que ça se passe? Quel sera notre avenir? Mm-hmm. Avec tout si cher, extrêmement cher.
Vous pouvez me donner des exemples des prix qui ont beaucoup augmenté pour la population cubaine, oui.
Oui, et tous les produits agroalimentaires, tout a augmenté. Le carburant.
Bien sûr, oui, ça oui, comme partout.
Le huile de tournesol.
Oui, il y en a.
Le blé.
Tout
a augmenté. Et en plus, le frais qu'il faut payer.
Oui, le transport a augmenté.
Les transports. Compliqué. Très compliqué.
Donc j'ai vu que le président Canel avait tenu des réunions avec les gouverneurs là-dessus pour dire qu'il faut tenir le coup.
Oui.
La
période le modèle cubain essaye de donner. Et c'est déjà inscrit sur la Constitution.
Oui,
et on travaille là-dessus tous les jours.
Oui, oui.
Il y a des réunions systématiques pour vérifier comment vont les choses.
Oui, oui.
Parce que l'une des idées de la nouvelle constitution, c'est de donner, comme en France et dans d'autres pays, le pouvoir aux collectivités, bien sûr, et aux régions.
Bien sûr.
Et ça, c'est très important.
Bien sûr.
Aussi que donner la participation des petites et moyennes entreprises un meilleur rôle dans l'économie nationale. Parce qu'il faut créer des richesses.
Eh oui.
Et il faut compter avec tous les acteurs de l'économie nationale, pas seulement les entreprises de l'État.
Oui, oui.
Et ça, c'est très important pour nous. Le modèle cubain, on le met à jour,
oui.
Et ça continue à évoluer. Et la Cuba d'ici à 4 ans va être complètement différente
de
celle d'aujourd'hui, parce qu'il y aura des nouveaux acteurs de l'économie qui vont faire son travail.
Donc, il y a une période difficile, mais il y a un espoir. Vous sentez le changement s'opérer.
C'est compliqué parce que la liaison entre les blocus, la pandémie...
Voilà, c'est ça. Tout ça à la fois.
Et tout ça à la fois. Et en plus, la réforme monétaire qu'on a fait à Cuba. Tout cela, tout ensemble, nous pose beaucoup de problèmes. Mais on va s'en sortir.
Oui, ben comme les autres fois, j'allais dire, mais dans la souffrance. C'est pour ça que la solidarité qui n'est pas assez forte, il faudrait qu'elle s'amplifie encore plus. C'est pour ça que je vous parlais des transports, des envois de médicaments, de seringues et tout. On a envoyé du Doliprane, c'était pas possible qu'il n'y ait pas de Doliprane à Cuba.
C'est compliqué.
C'est très très compliqué. Dites-moi aussi, alors, après le sommet raté des Amériques, là, est-ce que vous sentez un mouvement favorable à une orientation plus progressiste des États latino-américains?
Tout d'abord, c'est très, très important que les États-Unis puissent constater
que, voilà, il y a une opposition.
Oui. Oui, Cuba l'avait annoncé, la voix de Cuba va être dans le sommet, même s'ils ne sont pas là.
Peu importe.
Il y a 22 présidents ou premiers ministres qui ont parlé de l'exclusion de Cuba.
Ah, c'est parfait.
C'est inacceptable qu'un pays décide que d'autres pays, si souverains que celui-là, soit invité ou pas sur un forum international qui concerne à tous.
Voilà, exactement.
Parce que le problème de sécurité, de la drogue, d'immigration, de changement climatique,
tout le monde, voilà.
Tout le monde est compris.
Tout à fait.
Et normalement, entre Cuba et les États-Unis, au temps d'Obama, il y avait une belle coopération en matière de trafic humain, trafic de drogue et tout ça. Parce que par la position géographique de Cuba, c'est compliqué parce qu'ils utilisent Cuba ou essayent d'utiliser Cuba.
Bien sûr, comme relais.
Oui. Et avec nous, c'est compliqué.
Bien sûr. Et oui.
Parce qu'on n'accepte pas ça.
Mais bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on fait tomber un gouvernement. C'est évident. Donc vous avez, Cuba a tenu le choc là. Mais Obama était favorable, alors qu'avec Trump, ça a été catastrophique. Et Biden, est-ce que Biden a une politique ou a une capacité d'influer sur la politique? On a l'impression de flottement, d'avis contraires.
En tant que président des États-Unis, il a la capacité de faire les choses.
Il a le droit pour lui, voilà. Mais est-ce qu'il a les rapports de force internes? On se demande si...
Voilà, je crois que c'est un problème aussi des priorités.
Oui, sans doute.
Et aussi que les Cubano-Américains, avec Marco Rubio à la tête,
oui,
posent beaucoup de problèmes.
Oui, c'est vrai. C'est les plus extrémistes. Ouais. Il y a ça aussi. Difficile de gouverner avec ce genre de personnages qui vous sont hostiles, qui sont prêts à tout contre vous.
Et qui ont... C'est la haine.
C'est la haine, voilà, exact. Oui, c'est une haine de classe, c'est une haine même raciale, enfin, c'est tout à la fois. C'est le pire. Quoi. Mais hélas, ce pays en est porteur, c'est ce qui est tout à fait dommage. Bon, donc, je reviens sur la question de l'Europe. Pour l'instant, l'Europe n'a pas. Je ne sais pas si vous avez des échos des
gens. Je crois qu'il y a un accord de coopération entre Cuba et l'Europe.
Et l'Europe, voilà.
Que c'est bien. Et la question de travailler avec Cuba ou de faire des choses avec Cuba en dépendant de ce que pensent les États-Unis, ça a un long chemin.
Oui.
On a déjà depuis 60 ans avec ça.
Oui, c'est vrai.
Et on a perdu deux amis parce qu'ils font la pression sur les amis.
Bien sûr.
Et sur le plus faible aussi. C'est compliqué.
Bien sûr.
Et j'espère que l'Union européenne nous aide dans ces problèmes.
Oui, il faudrait.
Il y a capacité.
Ah ben, les capacités, elles y sont évidemment. Non, c'est une question d'autonomie politique qui se pose, qu'on voit très bien sur le cas de l'Ukraine. Et ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que l'Europe va souffrir beaucoup plus des sanctions de la Russie que les États-Unis. Et personne ne réagit encore. Si ça commence à se dire.
Ils ont commencé à parler aux États-Unis, à parler à Venezuela.
Ben oui. Oui, j'ai vu.
Lever des sanctions, machin.
Non, j'ai vu. Ben, vous avez, de toute façon, vous avez d'excellents.
C'est un double ou triple standard.
Oui, tout à fait. C'est à ce point-là. Donc, les évolutions positives en Amérique latine, bon, c'est l'évolution du président mexicain qui commence à montrer qu'il n'est pas une colonie des États-Unis, c'est bien. Le Gustavo Petro, on en a parlé. Le Pérou aussi, il y a toute une série. Alors, ce qui va jouer définitivement, je pense, pour un réalignement progressiste, c'est l'élection du Brésil.
C'est un poids lourd.
C'est un poids lourd. Qui pèse, qui est dans les BRICS, tout ça.
Oui, la sixième économie du monde.
Oui.
C'est Lula, et ce sont et Dilma, c'est qui ont mis le Brésil.
À ce niveau-là.
À ce niveau-là.
Et vos relations avec la Russie, j'ai vu que c'était réuni aussi la commission bilatérale. Là.
Oui.
Donc les relations avec la Russie continuent à être étroites, sur tous les terrains technologiques, scientifiques.
Oui, elles sont bonnes.
Elles sont bonnes, oui. Ça, c'est très très important parce qu'on a bien vu la tentative des États-Unis de faire fâcher la Russie avec le monde entier. Bon, je pense que ça a raté, disons, pour l'instant.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Mais Cuba ne veut pas la guerre.
Voilà. Mais c'est les marchands d'armes qui veulent la guerre. C'est ça. Hein? Hélas.
Cuba n'aime pas la guerre.
Non,
on dit qu'il faut trouver une solution pacifique.
Oui.
Pour régler le problème.
Bien sûr.
Parce que c'est très compliqué qu'on puisse accepter la guerre.
Pour terminer, je sais que vous êtes sollicité. Marseille vous a laissé une bonne impression d'une ville accueillante.
Je remercie infiniment l'accueil à Marseille.
Bon, c'est bien. On a chuchoté dans les couloirs de la politique marseillaise qu'il y avait une idée de faire un jumelage entre Marseille et La Havane, jumelage de ville.
Oui, ça c'est une belle idée.
C'est une belle idée.
Ah oui, bon. J'espère qu'on arrive à concrétiser les idées.
On vous en a parlé donc.
Oui, on va travailler ensemble.
Bon, c'est bien. Parce que vous savez, donc, Marseille est jumelée avec des grands ports, hein, et puis elle avait omis d'avoir des correspondants dans votre secteur-là du monde.
Oui, ça serait bien.
Ça serait bien. Non, mais on le souhaite, hein, parce que ça changerait de... Voilà, que...
En plus, Marseille, elle est belle aussi.
C'est une belle... Oui. Ah, oui. Vous connaissiez Marseille?
Oui, avant. Oui. C'est mon troisième poste en France.
D'accord.
Je suis venu avant.
Vous êtes venu avant. Et vous comptez rester un certain temps, donc à votre poste, ben ça c'est pas
vous qui décidez, oui. Oui, 4-5 ans.
4-5 ans, c'est là pour l'homme. Donc ça c'est très bien. Donc ben, je souhaite bon succès de cette visite.
Merci bien.
Bon succès, donc, alors si vous allez au congrès donc, de France-Cuba, j'espère que tout s'y passera bien et que les liens sont déjà étroits mais vont encore se resserrer. Oui. Et puis que les actions concrètes de solidarité seront favorisées autant que possible. C'est ça que je souhaite. C'est à ça qu'on contribue, nous, modestement, avec cette interview et avec notre intérêt permanent pour Cuba. Mais Cuba, c'est un morceau du monde avec une originalité. Petit, pacifique et donnant les priorités. Moi, c'est ce que je retiens. Quand on met 30% de son budget dans l'éducation et dans la santé, c'est un choix pour l'espèce humaine qu'on fait. Et donc, chapeau.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Enchanté.
Merci.
Merci.
Oui, pardon pour ce petit blanc lié à un surcroît d'activité dans les studios de Radio Galère. Merci Sidi. Simplement, je voulais donner une précision technique. Donc, l'entretien avec l'ambassadeur s'est passé dans le hall d'un grand hôtel. Il n'a pas été possible de trouver un local clos pour le faire. Et donc, vous avez une espèce de musique de fond qui, je pense, est supportable. Mais Radio Galère, c'est pas Radio France. Et puis d'ailleurs, Radio Galère, ça ne fait pas grève comme Radio France aujourd'hui. Et puis, je pense que les propos donc, très vastes de M. l'ambassadeur vous ont permis de voir qu'on n'avait pas simplement abordé la visite de Marseille. Et j'insiste sur le fait que, dans les circonstances présentes actuelles, il l'a beaucoup dit lui-même, la solidarité avec Cuba a un prix particulièrement important, puisque les difficultés qui, dans nos pays, du fait de la crise économique générale, donc baisse des productions, augmentation de tous les prix, ce qu'on appelle la stagflation, touchent prioritairement les économies les plus faibles, donc les ménages les plus faibles dans nos pays et les pays les moins riches dans l'ensemble du monde. Cuba, donc, qui paye de plus en plus cher, pas ses médicaments puisqu'il les fait, mais son alimentation, ses carburants, et plus le prix des transports qui a augmenté d'une façon astronomique, les plus pauvres, qu'ils soient des ménages ou des pays comme l'île de Cuba et le régime cubain, payent très très cher la crise économique dans laquelle le monde est entré. Donc pensons à eux, la solidarité existe, il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent, vous les connaissez peut-être, vous qui nous écoutez, et si vous n'en connaissez pas et que vous vouliez faire un geste, n'hésitez pas à envoyer un mail à comaguerre@orange.fr et nous ferons suivre aux personnes intéressées. Il y a un courant de solidarité qui ne tient qu'à se renforcer avec votre aide, si c'est possible. Voilà, merci beaucoup donc à l'ambassade qui a organisé ce contact. Merci beaucoup à Radio Galère pour nous avoir donné ce créneau pour cette émission spéciale. Et cette émission sera podcastée sur le site de Radio Galère, comme les autres. Et nous nous retrouverons pour parler d'autres pays, mais aussi de Cuba, chaque fois que l'occasion en vaudra la peine. Merci encore de votre attention. Bonne journée à tous.
Sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las vidas, ganar por ser el que más cuida o matar. Ser el campeón homicida, el que está torcida la escala de valores, villanos con laureles y loores, cuando se condecore de manera más justa. costal que extrae la bala y no ese que la incrusta. Dar a la humanidad con lo que busca, dar a la humanidad con lo que nunca le dio la sed de sangre, el resultado está a la vista. El premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda la superficie redonda, fecunda la palabra. Hora de que se imponga, médicos y no bombas.
¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir? Bombas o médico.
Golpeó la puerta de nuestra casa el karma. Llegó la muerte y ¿dónde están las armas? Sonó la alarma, suena la alarma. Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más. Almas que traen calma. No hubo bloqueo que oscureciera el alba. Palmar, otra misión en su arrojo. Barbas imperiales en remojo. Se cayeron las caretas, vimos la escena completa. ¿Quién es vida? ¿Quién es muerte? ¿Qué quiere el planeta? La encrucijada la misma, hoy te interpela la isla. Que demostró que entre blanco y negro había un prisma. El orden de los factores es el que allana. Un humano investigando o investigación humana. Debemos separar ciencia de violencia. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia.
¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir?
Bombas o médico.
Bombas o médico.
Y tengas que elegir.